Les dessous de l'Infox. François Bernard.
Bonsoir et merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale.
Les dessous de l'Infox.
Un politicien a un jour affirmé que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Si cela voulait dire qu'on peut en politique mentir sans conséquence, c'est de moins en moins vrai car des veilleurs de l'Infox pointent du doigt les promesses intenables de nos politiques. Dans le domaine du droit, un groupe s'est constitué qui s'est baptisé les surligneurs, qui examinent à la lumière des lois les propositions fantaisistes ou irréalistes formulées par certains politiciens. On en parlera avec Vincent Couronne, il est cofondateur et directeur des surligneurs, enseignant à Sciences Po, Saint-Germain, chercheur à Paris-Saclay, alors que vient de sortir une publication papier, un livre donc du collectif qui a pour titre « Politique, religion et laïcité ». C'est aux éditions Henrik B. Beaucoup d'infox sont apparus récemment sur les réseaux sociaux au Mali. Analyse et décryptage avec Marion Lefebvre et les journalistes à l'AFP Factuel, le site de vérification de l'agence France Presse. On la retrouvera en fin d'émission. Mais tout de suite, la chronique. Laura Kalmus est à Londres, c'est elle qui débute cette émission cette semaine. À 3 jours de la COP26, qui va durer 3 semaines, l'infox climato-sceptique et les intox autour de la conférence sur le climat sont nombreuses. À commencer, Laura, par le moyen de locomotion des délégués à Glasgow.
Oui, pour décrédibiliser les organisateurs du sommet, une information a circulé un peu partout sur les réseaux sociaux avec des articles et des posts sur Facebook qui racontent que les délégués se déplaceront en Tesla. Le gouvernement écossais aurait même dépensé plus de 2 millions d'euros pour équiper les délégués avec ces voitures, certes électriques, mais qui coûtent la modique somme de 120 000 euros chacune. Eh bien, c'est faux. Selon le gouvernement, les délégués seront même encouragés à prendre les transports en commun. Des voitures seront tout de même mises à leur disposition, mais elles ne seront pas aussi luxueuses et des bornes électriques pour les chargeurs seront alimentées grâce à de l'huile de friture recyclée.
Alors, cette conférence aura lieu à Glasgow, en Écosse, sur les terres de Boris Johnson, qui a déjà eu un des commentaires climato-sceptiques lorsqu'il écrivait pour le journal Le Daily Telegraph.
Oui, en janvier 2010, il a apporté son soutien à Piers Corbyn. Connu au Royaume-Uni pour nier l'existence du réchauffement climatique, Boris Johnson avait écrit que les prédictions climatiques de Piers Corbyn étaient vraies dans 85% des cas et qu'il faudrait peut-être écouter ce qu'il a à dire. Et 3 ans plus tard, en décembre 2013, il écrivait que certes, l'hiver était particulièrement doux cette année, mais que l'humanité avait juste cette fâcheuse tendance à se croire au centre d'événements cosmiques incontrôlable. Il est même allé encore plus loin lors d'un commentaire sur le terrible tsunami en 2004 où il écrit que les phénomènes météorologiques extrêmes n'avaient rien à voir avec l'humanité. Il faut tout de même rappeler à nos auditeurs qu'une étude de l'université de Birmingham est sans équivoque. 99% des chercheurs et des spécialistes du climat s'accordent à dire que les changements climatiques sont causés par les humains.
Alors, on l'a bien compris, ces commentaires de Boris Johnson ont existé, mais le Premier ministre britannique ne tient plus le même discours aujourd'hui. Il y a d'autres pays qui inquiètent, notamment l'Arabie Saoudite, le Japon et l'Australie, qui ont fait pression pour modifier un rapport scientifique sur la façon de lutter contre le réchauffement climatique.
Oui, et la BBC est parvenue à consulter ce document et certains passages sont assez édifiants. Pour l'Arabie Saoudite, le monde n'aurait pas besoin de réduire son utilisation de matières fossiles aussi rapidement que le recommande la version actuelle du rapport. Il y a aussi l'Australie, grand exportateur de charbon, ou encore le Japon, grand consommateur de charbon, qui ne voit pas la nécessité de fermer les centrales électriques au charbon. Alors attention, selon la BBC, les commentaires des gouvernements ont pour but d'être constructif et améliorer la qualité du rapport final. Mais à moins de 3 jours de l'ouverture de la conférence sur le climat, ce genre de remise en question ne s'inscrit pas dans la logique de la COP26.
Les dessous de l'Infox.
Merci Laura Kalmus, en direct de Londres, et une nouvelle chronique la semaine prochaine avec Sophie Malibaud. À l'approche de l'élection présidentielle en France, la religion et son contrepoint républicain, la laïcité, sont des thèmes de campagne qui suscitent de nombreux débats. Des débats parfois biaisés par des politiciens qui, pour plaire à leur électorat, sont prêts à avancer des informations qui posent problème au regard du droit. Des promesses impossibles, inconstitutionnelles, problématiques. envahissent donc le débat public et peuvent semer la confusion dans les esprits.
On en parle.
On en parle avec Vincent Couronne, qui est cofondateur et directeur des Surligneurs. C'est un collectif de juristes qui examine la légalité de certaines déclarations politiques contestables. Vincent Couronne, enseignant à Sciences Po au Saint-Germain et chercheur à Paris-Saclay, il est en ligne. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Donc, vous venez de sortir une version papier des travaux de votre collectif, les Surligneurs, et ce livre a pour titre « Politique, religion et laïcité ». C'est aux éditions Henrik B. Un livre donc qui réunit des articles qui concernent des déclarations politiques sur la religion et sur la laïcité. Est-ce que, Vincent Couronne, vous avez remarqué que la religion et la laïcité sont des thèmes propices à la désinformation ?
Oui, on a remarqué ça, ne serait-ce que parce que les questions de religion déchaînent en général des passions. On est sur des questions qui relèvent à la fois de l'intime, la liberté de conscience et donc de la manière dont on se définit soi-même. Et ça relève aussi de la culture. Et clairement, ici, on a un paramètre qui vient faire passer un peu, je dirais, au rouge tous les voyants de la désinformation. C'est la question de l'immigration avec la peur qu'elle provoque un changement culturel. On est donc là, clairement, ici, face à un thème qui a un fort potentiel de fantasme et donc de désinformation.
On va donner un ou deux exemples pour situer votre domaine d'intervention. Vous notez notamment cette phrase de la ministre de la Justice en 2020 qui affirme que, et je la cite, « l'insulte à la religion est une atteinte à la liberté de conscience ». Vous dites que c'est faux.
Alors oui, c'est faux parce que l'insulte à la religion, c'est ce qu'on appelle en religion en fait le blasphème. Or en France, le blasphème n'est pas réprimé. Chacun est libre de croire, de critiquer, voire même de se moquer d'un culte. Il n'y a qu'à regarder la ligne éditoriale de Charlie Hebdo qui le fait chaque semaine. Il y a une limite quand même, c'est qu'on ne peut pas insulter directement ceux qui pratiquent une religion. Ça serait de l'injure raciale, c'est sévèrement puni.
Alors Noël, dans 2 mois, va donc revenir le débat sur la présence de crèches dans les lieux publics, les mairies par exemple. Vous citez le maire de Béziers qui doute que cela puisse remettre en cause la laïcité. Et puis il y a ce chroniqueur qui affirme que la loi de séparation des églises et de l'État n'interdit pas les crèches de Noël. Que dit la loi précisément à ce propos, Vincent Couronne ?
En fait, la loi de 1905, parce que c'est ça, hein, c'est la loi sur la séparation des églises et de l'État, cette loi est assez claire à la base. Elle dit que les signes religieux, tous les signes religieux sont interdits dans tous les espaces publics et les monuments publics. Donc, a priori, les crèches devraient être interdites dans les mairies. Mais le Conseil d'État, en fait, il a aménagé une sorte un petit peu d'exception en reconnaissant que certaines crèches peuvent ne pas avoir de signification religieuse. On pense, par exemple, à la tradition des santons en Provence. Et donc, il dit, dans ce cas, le Conseil d'État, eh bien, la crèche n'est pas contraire à la laïcité, mais il faut bien démontrer qu'elle n'a pas de signification religieuse. Mmh. Ce qui n'était pas le cas, notamment à Béziers, les fois où la crèche a été installée.
On peut tout de même admettre que quand une loi interdit quelque chose, elle peut être abrogé, remplacé par une loi qui autoriserait cette chose. Dans ce cas des crèches en mairie, ce serait possible de changer la loi ?
Oui, alors pour ça, vu que ce qui interdit d'installer des crèches en mairie, c'est la loi de 1905, il suffirait de changer la loi de 1905, a priori. Mais attention quand même, parce que la laïcité est un principe qui désormais est dans la Constitution, à l'article 1er. Et donc, le législateur n'a pas une marge de manœuvre illimitée sur la question.
Cette notion de primauté d'une loi sur une autre, la Pologne est un bon exemple. Elle a pris une série de mesures concernant la justice, contraires aux lois européennes. Et quand l'Europe fait remarquer aux autorités polonaises que la loi européenne interdit ce que la loi polonaise autorise, eh bien, on répond à Varsovie que la loi polonaise est supérieure à la loi européenne. Qui a raison ?
Eh bien, écoutez, je dirais que c'est la Commission européenne qui, strictement, juridiquement, a raison ici. Parce que la Commission européenne, en fait, elle est chargée par les traités européens de veiller à la bonne application du droit européen dans les différents États. C'est une mission qui lui a été confiée par les États eux-mêmes lorsqu'ils ont rédigé, ratifié les traités. Or, il y a un article 19 dans les traités qui demande à ce que les États membres assurent aux citoyens de l'Union une protection juridictionnelle effective. Alors, c'est-à-dire, c'est un terme un peu compliqué, mais qui signifie que chacun, en fait, doit avoir accès à un juge et à un bon juge, c'est-à-dire un juge indépendant du pouvoir politique, notamment. Donc ça, c'est déjà dans les traités. La Commission, ici, ne fait que demander à la Pologne de respecter cet engagement, donc de respecter les traités. Il faut ajouter en plus à ça que, sur la question précisément de la primauté, En 2007, dans le traité de Lisbonne, tous les États, à l'unanimité, ont rédigé et adopté une déclaration sur la primauté dans laquelle ils rappellent leur attachement à la primauté du droit de l'Union, y compris sur les constitutions nationales. Du coup, la Pologne ne peut pas vraiment dire aujourd'hui qu'elle ne savait pas et qu'elle ne reconnaît pas cette primauté.
Comment cette situation va-t-elle pouvoir se débloquer? Je sais qu'il y a des pénalités qui ont été décidées à l'encontre de la Pologne, des pénalités financières. Qui va pouvoir imposer sa loi finalement?
En fait, ça, c'est impossible de dire à ce stade. En réalité, ici, c'est un bras de fer juridique, mais aussi politique. Mais si c'est la Commission européenne qui l'emporte et l'Union européenne, ça permettra d'affirmer les valeurs européennes. La justice doit être indépendante, sinon on n'est plus en démocratie. Ça, c'est les valeurs de l'Europe. Mais si c'est la Pologne, en fait, qui l'emporte, alors probablement débutera, alors ce ne sera pas une sortie de la Pologne de l'Union européenne, parce que veut la Pologne, mais débutera probablement un délitement de l'Union européenne qui n'aura plus la force d'unir les peuples, d'unir les États, et où finalement chacun prendra un chemin divergent. En fait, c'est la fin de l'intégration européenne. Si on ne reconnaît plus la primauté du droit européen sur le droit des États, chacun pourra faire un petit peu ce qu'il veut et fera son shopping sur les normes qu'il veut appliquer ou pas.
Il n'y a pas qu'en Pologne que le droit européen est contesté. Xavier Bertrand, Michel Barnier, Marine Le Pen, Arnaud Montebourg et maintenant Valérie Pécresse en France ont pris position pour défendre la souveraineté juridique de la France contre justement la primauté du droit européen, notamment en matière d'immigration. Et là, vous dites, c'est inutile, ces garde-fous existent déjà dans le droit national français.
Oui, alors là, on est face à une question quand même relativement complexe. Alors, du coup, j'incite vos auditeurs à regarder le site internet pour avoir plus de détails, mais les questions migratoires relèvent largement des États. Les contraintes de l'Union européenne qui pèsent sur l'État sur ces sujets-là sont assez restreintes. Mais aussi parce que le traité sur l'Union européenne protège déjà l'identité constitutionnelle nationale. Et des États comme l'Autriche, d'ailleurs, ou d'autres États, ont déjà fait valoir cette identité pour ne pas appliquer une loi européenne. Donc, il y a déjà des éléments dans les traités qui permettent à un État de faire valoir son identité. C'est tout à fait possible.
On mettra sur notre site internet le lien pour accéder à votre site et pour avoir donc des explications complémentaires. Vincent Couronne, que dire de la déclaration du président de la Conférence des évêques de France quand il dit que le secret de la confession est plus fort que les lois de la République ?
Bon, là, c'est clair, c'est faux. Le secret de la confession, c'est un secret professionnel qui est prévu par le droit français et le droit canonique ne s'applique pas en France. Donc, ce sont bien les lois de la République qui s'appliquent et donc le secret de la confession, c'est un secret qui est prévu par notre droit français et avec ses exceptions.
Et c'est sûrement la raison pour laquelle ce président de la Conférence des évêques de France est revenu quelques jours plus tôt sur les propos qu'il avait tenus à ce moment-là. On a déjà du moins parlé dans cette émission des Surligneurs, ce collectif de juristes que vous avez cofondé, qui examine la légalité des propositions politiques. Vous disposez d'un site internet, on en parlait pour communiquer vos enquêtes, et vous venez de publier un livre. Alors pourquoi passer du net au papier? Quel intérêt?
L'intérêt déjà, c'est de toucher un nouveau public, celui qui va dans les librairies et qui n'est pas forcément sur notre site internet. Mais l'intérêt aussi pour nous, ça a été de réactualiser nos anciens articles à la lumière de la campagne présidentielle. On voit clairement des positions qui souvent n'ont pas bougé entre 2017 et 2021, d'autres si. Et donc ce livre permet d'aborder la campagne avec une information fiable, d'actualité et avec en perspective les 5 années, le quinquennat qui vient de s'écouler.
En tout cas, l'esprit est le même, dénoncer les propositions ou les promesses qui sont en contradiction avec la loi. Est-ce que vous avez le sentiment que, se sachant surveiller, les politiciens français font davantage attention aux propos qu'ils tiennent ?
C'est difficile à mesurer et à savoir. En revanche, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une grande différence entre la campagne de 2017 et celle pour 2022. Tous les candidats désormais parlent de droit, vont dans des subtilités techniques sur l'identité constitutionnelle, la primauté en parler, sur l'immigration, etc. Alors pas toujours en disant des choses très justes, et on est là pour éclairer les électeurs, mais en tout cas, il y a clairement aujourd'hui du droit beaucoup plus dans le discours politique qu'il y en avait en 2017.
Donc les surligneurs grandissent, grossissent, vous êtes de plus en plus nombreux, vous juristes, à veiller l'infox dans le droit ?
Alors on est à peu près une 40aine de chercheurs en droit et 100aine d'étudiants en droit, en France, aussi en Belgique, parce qu'on se lance en Belgique dans quelques jours. L'objectif, c'est de se répandre ailleurs dans l'Union européenne et puis pourquoi pas un jour traverser l'Atlantique.
Bien, on va suivre ça avec intérêt. Merci Vincent Couronne. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le directeur des Surligneurs, ce collectif de juristes qui examine la légalité des déclarations politiques, enseignant à Sciences Po Saint-Germain et chercheur à Paris-Saclay. Merci et bonsoir.
Nous retrouvons
retrouvons maintenant Marion Lefebvre, journaliste à l'AFP Factuel, le site de vérification de l'agence France-Presse. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, vous revenez sur une vague d'infox sur les réseaux sociaux au Mali.
Oui, depuis début octobre, les fausses nouvelles qui portent sur la présence française ou l'hypothétique présence russe sur le sol malien pullulent en ligne. Sur Facebook, une publication partagée plusieurs centaines de fois prétend par exemple que des soldats russes ont été repérés dans le pays. Une autre republie la vidéo d'un discours sur l'intervention française au Mali, datée de 2013, en la sortant de son contexte pour induire les internautes en erreur. En tout, nous avons repéré et vérifié 5 de ces rumeurs en 2 semaines, un chiffre inhabituellement élevé.
Alors comment expliquer cette recrudescence soudaine sur les réseaux sociaux maliens ?
Eh bien, toutes ces fausses nouvelles circulent sur fond de tensions entre Paris et Bamako. Les relations franco-maliennes se sont raidies depuis l'annonce de la réduction du dispositif militaire français dans le pays et la possible arrivée du groupe de mercenaires russes Wagner. La France, qui a engagé son armée en 2013 au Mali afin d'enrayer la progression des djihadistes, a vivement critiqué la gestion du pays par la junte. Et la tension est montée d'un cran en septembre, quand le premier ministre de transition Choguel Kokala Maïga a accusé Paris d'un abandon en plein vol en raison du plan de la France de réduction de sa présence militaire. Des critiques censées justifier le possible recours par Bamako à la société paramilitaire privée russe Wagner, décrite comme proche du président russe Vladimir Poutine. Selon Niagaleba Gayoko, présidente de l'African Security Sector Network, c'est bien cette surenchère diplomatique entre les deux partenaires qui a conduit récemment à une aggravation de la désinformation.
Alors concrètement, quels exemples de cette aggravation avez-vous repéré ?
L'une des publications les plus partagées sur lesquelles nous avons travaillé affirmait par exemple, photo à l'appui, que les soldats français présents au Mali intervenaient en réalité dans le pays pour piller ses ressources naturelles. Sur certaines de ces images, on voit des soldats qui posent tout sourire devant une marée de lingots d'or. Sur d'autres, des bulldozers semblent s'affairer sur des sites d'exploitation de ressources naturelles. Une autre rumeur affirmait par exemple qu'un avion français avait été intercepté dans l'ouest du Mali par l'armée grâce aux renseignements russes.
Et tout cela était faux.
Absolument faux. Aucune des photos de la première publication que j'ai mentionnée n'a été prise au Mali. Les soldats devant les lingots d'or sont américains, se trouvaient en Irak en 2003. Une autre photo montre une opération de destruction de munitions par l'armée française en Centrafrique. Une autre encore, une mine exploitée par une société canadienne en Mauritanie. Et la dernière a été prise dans le sud de la France lors d'une mission de la Légion étrangère. Quant à la deuxième rumeur que j'ai mentionnée, les deux armées françaises comme maliennes ont fermement démenti qu'un avion français avait été dérouté sur renseignement russe. L'image qui accompagnait ces publications, elle, montrait bien un Mirage, un avion de l'armée de l'air française, mais elle avait été prise par un photographe de l'AFP lors d'un exercice aérien en Israël en 2017.
Alors vous identifiez principalement des infox qui visent l'intervention militaire française au Mali. Est-ce que la désinformation circule à sens unique ?
Actuellement, les experts que nous avons interrogés affirment voir peu ou pas de fausses informations pro-françaises. Mais il faut souligner que les 5 infox russo-françaises que nous avons repérées ne constituent que la partie émergée de l'iceberg. De nombreuses fausses informations circulent aussi sur la messagerie cryptée WhatsApp. Et là, impossible d'en avoir connaissance, à moins d'être parmi les destinataires.
Et au-delà de ce contexte sécuritaire compliqué, est-ce qu'on a une idée de ce qui contribue à la diffusion de ces fausses informations plus difficilement détectables ?
Le contexte national de transition politique, donc de la junte au pouvoir vers les autorités civiles, avec des élections théoriquement prévues pour février 2022, y est pour beaucoup, selon les chercheurs que nous avons contactés. Derrière ces infox, disent-ils, on trouve notamment des vidéomans, ces internautes qui diffusent sur leur page Facebook des vidéos pro-junte et anti-France très virales. Mais aussi des Maliens et des activistes qui se disent panafricanistes, favorables à l'arrivée des Russes de Wagner. Et s'il est très difficile, évidemment, de remonter à la source de ces fake news, certains chercheurs suspectent également qu'une partie d'entre elles soit orchestrée par la Russie. Quoi qu'il en soit, cet afflux de désinformation inquiète, parce qu'il contribue à fragiliser le pays et parce que les jeunes, son public cible, n'ont souvent pas les moyens de vérifier une information et se font avoir.
Vérification faite.
Marion Lefebvre, journaliste à l'AFP Factuel, le site de désinformation de l'agence France Presse. Merci. C'est la fin des Dessous de l'Infox. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à produire cette émission. Attaché de production Florence Ponce, à la documentation Déborah Lepage, à la réalisation Hélène Avril. Merci à vous de rester fidèles à cette émission dont vous pouvez retrouver le podcast sur notre site internet. Et je vous rappelle que cela fait maintenant 3 années que nous décryptons le phénomène Infox dans cette émission dont vous pouvez retrouver toutes les éditions sur le site internet de RFI. N'hésitez pas à vous y référer, nous avons reçu les meilleurs experts en la matière. En attendant de vous retrouver à l'écoute des Dessous de l'Infox,
François Bernard
vous dit bonsoir et à vendredi prochain.